Aristote, Métaphysique, livre 8, chapitre 4 à 6. Chapitre 4. Quant à la substance matérielle, il ne faut pas perdre de vue que si tous les objets viennent d'un ou de plusieurs éléments premiers, et si la matière est le principe de tous les êtres matériels, chacun, cependant, a une matière propre. Ainsi, la matière immédiate de la pituite est le doux et le gras, celle de la bile, la mère, ou quelque autre chose de ce genre. Mais peut-être ces diverses substances viennent-elles toutes d'une même matière. Un même objet peut avoir plusieurs matières, lorsqu'une de ces matières vient de l'autre. C'est dans ce sens qu'on dira que la pituite vient du gras et du doux si le gras vient du doux. La pituite pourra enfin venir de la bile, par la résolution de la bile dans sa nature première. Car une chose vient d'une autre de deux manières. Il peut y avoir production immédiate ou bien production après la résolution de l'une dans ses éléments premiers. Il est possible que d'une seule matière proviennent des objets différents en vertu d'une cause motrice différente. Ainsi, du bois peut provenir un coffre ou un lit. Cependant, il y a aussi des objets dont la matière doit nécessairement être différente. On ne peut pas faire une scie avec du bois. Cela n'est point au pouvoir de la cause motrice. Elle ne fera jamais une scie avec de la laine ou du bois. Que, s'il est possible de produire les mêmes choses avec des matières différentes, il faut évidemment que, dans ce cas, l'art, le principe moteur, soit le même. Car si la matière et le moteur diffèrent en même temps, le produit aussi sera différent. Lors donc que l'on voudra étudier les causes, il faudra énumérer toutes les causes possibles, puisque la cause s'entend de différentes manières. Ainsi, quelle est la cause matérielle de l'homme ? Les menstrues. Quelle est la cause motrice ? Le sperme peut-être. Quelle est la cause formelle ? C'est l'essence pure. Quelle est la cause finale ? C'est le but. Peut-être ces deux dernières causes sont-elles identiques ? Il faut aussi avoir soin d'indiquer toujours la cause la plus prochaine. Si l'on demande par exemple quelle est la matière, ne point répondre le feu ou la terre, mais dire la matière propre. Telle est, relativement aux substances physiques sujettes à production, l'ordre de recherche qu'il faut nécessairement suivre, si l'on veut procéder régulièrement, puisque tel est le nombre et la nature des causes, et que ce qu'il faut connaître, ce sont les causes. Quant aux substances physiques éternelles, il faut procéder autrement, car quelques-unes peut-être n'ont pas de matière, ou du moins, leur matière n'est pas de même nature que celle des autres êtres. Elle est seulement mobile dans l'espace. Il n'y a point non plus de matière dans les choses qui, bien que des productions de la nature, ne sont point des substances. Leur substance, c'est le sujet même qui est modifié. Par exemple, quelle est la cause, quelle est la matière de l'éclipse ? Il n'y en a pas. Il y a seulement la lune qui subit l'éclipse. La cause motrice, la cause de la destruction de la lumière, c'est la Terre. Quant à la cause finale, peut-être là n'y en a-t-il pas. La cause formelle, c'est la notion même de l'objet. mais cette notion est vague si l'on n'y joint pas celle de la cause productrice. Ainsi, qu'est-ce que l'éclipse ? C'est la privation de la lumière. On ajoute, cette privation résulte de l'interposition de la Terre entre le Soleil et la Lune. C'est indiqué, en définissant l'objet, la cause productrice. On ne sait pas quelle est, dans le sommeil, la partie affectée la première. N'est-ce point l'animal ? Oui, sans doute. Mais l'animal, dans une de ses parties. Quelle est cette partie, siège premier de l'affection ? C'est le cœur, ou toute autre partie. Il y a ensuite à examiner la cause motrice. Ensuite, en quoi consiste cette affection d'une partie qui n'est pas commune au tout ? Dira-t-on que c'est telle espèce d'immobilité ? Fort bien. Mais cette immobilité vient, faut-il ajouter, de ce que le siège premier du sommeil a éprouvé une certaine affection. Chapitre 5. Il y a des êtres qui existent ou n'existent pas, sans qu'il y ait pour eux ni production ni destruction. Tels sont les points s'il y a réellement des points. Tels sont aussi les formes et les figures. Ce n'est pas le blanc lui-même qui devient, c'est le bois qui devient blanc. Et tout ce qui se produit provient de quelque chose et devient quelque chose. Il suit de là que les contraires ne peuvent pas tous provenir les uns des autres. L'homme noir devient un homme blanc d'une autre manière que le noir ne devient blanc. Ce ne sont pas non plus tous les êtres qui ont une matière, mais seulement ceux pour lesquels il y a production et qui se transforment les uns dans les autres. Tous les êtres qui existent ou n'existent pas, sans être soumis au changement, ces êtres n'ont pas de matière. Mais une difficulté se présente. Comment la matière de chaque être se comporte-t-elle relativement au contraire? Quand le corps, par exemple, a la santé en puissance, la maladie étant le contraire de la santé, est-ce en puissance que l'une et l'autre se trouvent dans le corps? Est-ce en puissance que l'eau est vinaigre et vin? Ou bien, l'un des contraires est-il l'état habituel et la forme de la matière, tandis que l'autre ne serait qu'une privation, une corruption contre nature? Une difficulté encore, c'est de savoir pourquoi le vin n'est ni la matière du vinaigre, ni le vinaigre en puissance, bien que ce soit du vin que provient le vinaigre. Et le vivant ? Est-il un cadavre en puissance ou bien cela n'est-il point ? Et toute destruction n'est-elle qu'un accident ? Or, c'est la matière même de l'animal qui est en puissance, le cadavre par le fait de la destruction, en un mot, la matière du cadavre. C'est l'eau qui est la matière du vinaigre. Le vinaigre et le cadavre viennent de l'eau et de l'animal, comme la nuit vient du jour. Dans tous les cas où il y a comme ici transformation réciproque, il faut que dans la transformation, les êtres reviennent à leurs éléments matériels. Pour que le cadavre devienne un animal, il doit d'abord repasser par l'état de matière. Puis, à cette condition, il pourra devenir un animal. Il faut que le vinaigre se change en eau pour devenir vin. Ensuite, chapitre 6. Nous avons indiqué une difficulté relativement aux définitions et aux nombres. Quelle est la cause de leur unité ? Car il y a une cause à l'unité de ce qui a plusieurs parties, dont la réunion n'est point une sorte de monceau, de tout ce dont l'ensemble est quelque chose indépendamment des parties. La cause de l'unité des corps, c'est pour les uns le contact, pour les autres la viscosimètre ou quelques modifications du même genre. Quant à la définition, elle est un discours un, non point à la manière de l'Iliade par l'enchaînement, mais par l'unité de l'être défini. Qu'est-ce donc qui fait l'unité de l'homme? Et pourquoi est-il un et non multiple, animal et bipède par exemple? Surtout s'il y a, comme le prétendent quelques-uns, un animal en soi et un bipède en soi. Pourquoi, en effet, l'homme en soi ne serait-il pas l'un et l'autre? Les hommes existant par leur participation, non pas avec un seul être, l'homme en soi, mais avec deux êtres en soi, l'animal et le bipède. Dans l'hypothèse dont nous parlons, l'homme ne peut absolument pas être un. Il est plusieurs, animal et bipède. On voit donc qu'avec cette manière de définir les choses et de traiter la question, il est impossible de montrer la cause et de résoudre la difficulté. Mais, s'il y a, comme c'est notre opinion, d'un côté la matière, de l'autre la forme, d'un côté l'être en puissance, de l'autre l'être en acte, nous avons, ce semble, la solution cherchée. Donna-t-on même le nom de vêtement au cylindre des reins? La difficulté n'offrirait pas plus d'embarras. Alors, le mot vêtement représenterait ce que contient la définition. Il faudrait donc chercher quelle est la cause de l'unité d'être du cylindre et de l'airain. Question qui se résout d'elle-même. L'un est la matière, l'autre la forme. Quelle est donc, en dehors de l'agent, la cause qui fait passer de la puissance à l'acte les êtres pour lesquels il y a production? Il n'y en a pas d'autre que celle que nous avons dite qui fasse que la sphère en puissance soit une sphère en acte. C'est pour la sphère, comme pour l'homme, l'essence individuelle. Il y a deux sortes de matière, la matière intelligible et la sensible. Et dans toute définition, dans celle-ci par exemple, le cercle est une figure plane, il y a d'un côté la matière, l'acte de l'autre. Quant aux choses qui n'ont pas de matière, ni intelligible ni sensible, chacune d'elles est une unité immédiate, une unité pure et simple. Chacune d'elles appartient à l'être proprement dit. Telles sont l'essence, la qualité, la quantité, etc. C'est pour cela qu'on ne fait entrer dans les définitions ni l'être ni l'unité. La forme substantielle est, elle aussi, une unité pure et simple, un être proprement dit. Il n'y a donc, pour ces choses, aucune cause étrangère qui constitue leur unité ni leur être. Chacune d'elles est par elle-même un être et une unité, et non point à ce titre que l'être et l'unité soient un genre commun, ni qu'ils aient une existence indépendante des êtres particuliers. Il en est qui, pour résoudre cette question de l'unité, admettent la participation. Mais ils ne savent ni quelle est la cause de la participation, ni ce que c'est que participer. Suivant d'autres, ce qui fait l'unité, c'est la liaison avec l'âme. La science, dit Lycophron, c'est la liaison du savoir avec l'âme. D'autres, enfin, disent que la vie, c'est la réunion, l'enchaînement de l'âme avec le corps. Or, on peut en dire autant de toutes choses. La santé serait donc alors la liaison, l'enchaînement, la réunion de l'âme et de la santé. le triangle des reins, la réunion de l'airain et du triangle. Le blanc, la réunion de la surface et de la blancheur. C'est la recherche de la cause qui produit l'unité de la puissance et de l'acte, et l'examen de leurs différences qui a été la source de ces opinions. Or, nous l'avons dit, la matière immédiate et la forme sont une seule et même chose. Seulement, l'une est l'être en puissance, l'autre l'être en acte. Chercher quelle est la cause de l'unité et chercher celle de la forme substantielle de l'unité, c'est donc la même recherche. Car chaque unité individuelle, soit unité en puissance, soit unité en acte, est sous un point de vue l'unité. Aussi, n'y a-t-il pas d'autre cause d'unité que le moteur qui fait passer les êtres de la puissance à l'acte? Quant aux êtres qui n'ont pas de matière, ils ne sont tous qu'êtres purement et simplement. Car chaque unité individuelle, soit unité en puissance, soit unité en acte, est, sous un point de vue, l'unité. Aussi, n'y a-t-il pas d'autre cause d'unité que le moteur qui fait passer les êtres de la puissance à l'acte? Quant aux êtres qui n'ont pas de matière, ils ne sont tous qu'êtres purement et simplement. Fin du livre 8e.